Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous, Gilles Ménage.
La taxe sur le sucre est entrée en vigueur. Elle va générer, selon les cas, une augmentation de prix de 5 à 25%. Reprise très timide ce matin pour les usagers du réseau rail. Peu de clients au départ de Nouméa pour le Nord. Le trafic sera réajusté en fonction de la fréquentation. Les services de la province sud fermés provisoirement à l'île des Pins. Décision prise après l'agression de deux élus provinciales. 24 futurs policiers municipaux sont entrés en formation. Ils seront au service des populations de Nouméa, du Mont-d'Or et de Dimbéa. Très chaud le jour, très froid la nuit. Les écarts de température constatés en ce moment sur le territoire sont les plus élevés. Et ce, depuis 50 ans. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer sous ces titres cette information qui nous est parvenue cet après-midi, les rassemblements, manifestations et cortèges sur la commune de Nouméa sont interdits du 31 août au 30 septembre 2024. L'arrêté Jean-François Bodin a été publié par le Haut-Commissariat.
Oui, et dans cet arrêté, le Haut-Commissariat fait le constat que depuis plusieurs semaines, certaines communes de Nouvelle-Calédonie ont fait l'objet de graves troubles à caractère insurrectionnel, matérialisés, écrit-il, par des tirs d'armes à feu sur les forces de sécurité intérieure, des dégradations, des destructions, des incendies et des pillages de commerces et de centres d'alimentation, d'infrastructures, d'établissements publics et plusieurs établissements scolaires, ainsi qu'à des évacuations forcées de personnes se trouvant dans leurs habitations pour pouvoir incendier leurs bâtiments, dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi constitutionnelle sur le corps électoral. Le Haut-Commissaire constate aussi les difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure pour gérer les troubles simultanément dans plusieurs secteurs géographiques du territoire et les plaintes de la population. Et il rappelle qu'en dépit des mesures mises en œuvre des opérations de sécurisation, notamment les 2647 interpellations qui ont eu lieu à ce jour, ces événements demeurent susceptibles de se reproduire dans les jours à venir. Dans un contexte de tension et d'hostilité à l'encontre des forces de sécurité intérieure et engendrer des rassemblements de nature à créer de nouveaux désordres matériels et porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à l'égard des agents des forces de sécurité intérieure. C'est donc pour toutes ces raisons que cet arrêté a été pris et il porte donc interdiction de rassemblements, de manifestations et de cortèges sur la commune de Nouméa du samedi 31 août au lundi 30 septembre 2024.
Et puis la fermeture temporaire des services provinciaux à l'île des Pins, c'est la décision de la province sud après les agressions physiques dont ont été victimes samedi deux de ses élus, Virginie Ruffnac et Laura Vendégout.
Pour la province sud, ces incidents constituent une escalade inacceptable et suscitent une nouvelle fois l'indignation. En conséquence, l'ensemble des services provinciaux sera fermé sur l'île des Pins du jeudi 5 septembre au lundi 9 septembre inclus. Dans un communiqué, la province sud explique que cette fermeture temporaire pour une durée de 5 jours de l'ensemble de ses services a pour objectif de sensibiliser la population ainsi que les autorités coutumières à la gravité de la situation et a rappelé que la mission de la province est d'œuvrer en faveur de la population. La province sud réaffirme par ailleurs sa détermination à ne pas se laisser intimider par ces actes antidémocratiques et elle appelle à une réaction rapide et efficace des autorités coutumières pour que ces violences cessent immédiatement. Elle exprime enfin son espoir que des actions fermes seront prises pour rétablir un climat de sérénité et de respect mutuel indispensable à la poursuite des projets de développement et de services publics sur l'île des Pins.
Et puis dans l'actualité judiciaire, je vous rappelle qu'un auteur présumé de carjacking à Saint-Louis est en détention provisoire. Âgé de 31 ans, il a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi par la gendarmerie. Il faisait l'objet d'ailleurs d'un mandat de recherche. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu 3 carjackings avec violence et armes en mai et juin dernier. Il s'agit d'un complice présumé de Rockway Mitan dit Banane. Le parquet indique qu'il se trouve en état de récidive légale, notamment en raison de ses nombreux antécédents judiciaires.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Selon vous, le PALICA et l'UPM doivent-ils quitter le FLNKS ou doivent-ils essayer de reprendre le contrôle de la coalition indépendantiste? Si vous pensez qu'ils doivent quitter le FLNKS, vous tapez 1. Si vous pensez qu'ils doivent essayer d'en reprendre le contrôle, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. C'est Willy Gatuo, l'ancien maire de Païta, qui sera demain notre invité du matin à 7h30. Il sera interrogé sur l'actualité politique récente et notamment sur l'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès. Il reviendra également sur les comités de résistance citoyenne dont il est le porte-parole. Willy Gatuo, invité du matin, c'est à suivre demain à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Et puis dans notre magazine citoyen, demain à midi, nous ferons le point sur l'offre post-bac de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et les filières proposées par le vice-rectorat. Samedi prochain, l'UNC ouvrira ses portes pour présenter son offre aux futurs bacheliers. Et nous en parlerons avec le directeur de la communication de l'UNC, Sylvain Raffard-Artigue, et avec Valérie Poirner, qui est déléguée académique chargée de l'information et de l'orientation au vice-rectorat. Tout savoir sur les études supérieures, ce sera à midi demain sur Radio Rythme Bleu. Cela ne vous a sans doute pas échappé, il fait très chaud le jour et plutôt très frais la nuit. Une dizaine de degrés seulement en pleine nuit et plus de 30 degrés parfois en journée, avec des records d'écart de température battus à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ce n'était pas arrivé en période dite fraîche depuis les années 70. Les détails avec Christophe Point-Dumont, il est climatologue à Météo France Nouvelle-Calédonie.
Effectivement, depuis 15 jours, sur l'ensemble du pays et particulièrement sur la côte ouest, les températures avoisinent les 28 degrés, parfois frôlent les 30 degrés. Hier, le 1er septembre, à Bouraille, par exemple, il y avait eu 31,5 degrés de relevé. Et il faut savoir qu'à 6h19 le matin, à Bouraille, à la même station, il faisait seulement 11,3 degrés. Et c'est donc cette grande différence entre des températures proches des 10 degrés au plus froid de la journée et des températures proches des 30 degrés au plus chaud de la journée qui font qu'on a ce sentiment d'un retour de chaleur et qu'on se demande si ces chaleurs sont exceptionnelles ou normales. On a eu moins de perturbations australes qui remontaient du sud et qui auraient pu nous apporter par moment, ponctuellement, des journées un peu fraîches. Donc ça a manqué au mois d'août.
Christophe Point-Dumont précise que la Nouvelle-Calédonie, comme le reste du globe d'ailleurs, n'est pas épargnée par l'augmentation des températures. Le mois de septembre est généralement un mois de transition entre la période fraîche et la période chaude, mais il y a un mais selon le climatologue.
Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le mois de septembre qui s'est le plus réchauffé en 50 ans, en tout cas au niveau des températures minimales. C'est-à-dire que si on regarde en moyenne sur toutes les stations pour lesquelles on avait des données disponibles depuis une cinquantaine d'années, on peut constater que le mois de septembre, en une cinquantaine d'années, il s'est réchauffé d'à peu près 2 degrés en moyenne mensuelle en 50 ans. Donc le mois de septembre, aujourd'hui, oui, il est plus chaud qu'il y a 50 ans en moyenne.
Autre problématique météorologique sur le territoire, c'est le manque de pluie. La période de juillet à septembre est certes la période la moins pluvieuse de l'année, mais la Nouvelle-Calédonie est déjà dans un état de sécheresse assez élevé. La côte ouest, par exemple, n'a pas reçu de pluie dite efficace, c'est-à-dire de plus de 30 mm dans une seule et même journée, et ce depuis 4 mois. Après un premier mois de marche à blanc, la taxe sur le sucre est donc entrée en vigueur hier, 1er septembre. Cet impôt dit comportemental va générer une inflation estimée entre 5 et 25% selon les professionnels du secteur, Isabelle Pelletier.
Boissons sucrées, chocolat, glace, confiture, pâte à tartiner, pâtisserie et viennoiserie, y compris vendues chez les boulangers-pâtissiers. Autant de produits directement visés par cette taxe calculée en fonction du taux de sucre qu'ils contiennent. Elle devait entrer en vigueur au 1er août, mais les professionnels avaient fait valoir au gouvernement qu'ils n'étaient pas prêts. L'exécutif leur a donc accordé un mois de marche à blanc pour intégrer la taxe dans leur calcul de prix. Les entreprises concernées regrettent une absence de communication de la part du gouvernement vers les consommateurs et une augmentation jugée particulièrement inopportune en ces temps de crise. On écoute les précisions de Xavier Benoît, le président de la FINC.
Ce qu'on regrette aujourd'hui profondément, c'est qu'il n'y a eu aucune communication de la part du gouvernement vers les consommateurs canadiens pour leur expliquer que les produits contenant du sucre allaient augmenter du fait d'une taxe sucre mise en place à la demande du gouvernement par le Congrès et que l'objet de cette taxe, c'est effectivement d'agir sur le comportement du consommateur. Donc là, il n'y a eu aucune communication de fait. Donc effectivement, le point important, c'est d'expliquer aux consommateurs que ce ne sont pas les entreprises importatrices ou productrices locales qui augmentent leur prix pour augmenter leur marge, mais c'est bien pour absorber une taxe qui est répercutée sur les consommateurs. Dans le dernier courrier qu'on a envoyé courant du mois de doute au gouvernement, en disant que c'était inapproprié de mettre une taxe pour les consommateurs canadiens, parce que ça va générer une inflation significative. Et ceux qui vont avoir le plus de mal à absorber cette inflation, ce sont les faibles revenus, qui sont aussi consommateurs de produits contenant du sucre. Donc ça ne semblait pas opportun dans le contexte actuel.
Avec cette taxe dite comportementale, l'un des objectifs recherchés par le gouvernement, c'est une baisse du taux de sucre dans les produits fabriqués localement. C'est plus compliqué pour les importations, comme l'explique Emmanuel Kranz, directeur général de Nestlé Nouvelle-Calédonie, qui importe entre autres les marques KitKat, Milo, Chocapic, Crunch ou encore les nouilles Maggi.
La taxe sucre qui est mise en place par le gouvernement va avoir un impact significatif sur nos prix de vente, donc quelque part sur nos, les prix de revente qui sont faits à nos distributeurs, donc quelque part impacter le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui va influencer les recettes des producteurs mondiaux, hein, que ça soit Nestlé ou le groupe Mars. Il y a deux choses à différencier. Pour les importateurs, c'est une taxe qu'on va payer lorsque les produits vont arriver en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on va faire pour les importateurs notre déclaration en douane. Donc les douanes sont en mesure sur déclaration des quantités de sucre dans tous les produits qu'on importe. Nous calculons quelle est la valeur de cette taxe sucre. Et cette valeur va être répercutée au franc. Le franc sont les prix de cession qu'on fait à nos distributeurs.
La liste des produits impactés par la taxe sucre est encore en train d'être affinée. On sait qu'elle va concerner bien sûr aussi le sucre en poudre ou en morceaux à hauteur de plus 10% par kilo, mais aussi le ketchup, les sauces tomates, les eaux aromatisées, les jus de fruits naturels, donc sans sucre ajouté, avec plus 10 à 15%, les sauces soja, la mayonnaise, la moutarde et certaines préparations pour sauce. Les yaourts ne seront pas touchés. Les répercussions sur les prix seront effectuées par les distributeurs dans les semaines à venir. Les professionnels du secteur, eux, vont réaliser une première évaluation à la fin du mois de septembre. La Fédération des industries locales dit aussi attendre une communication de la part de l'agence sanitaire et sociale, logique, puisque l'objectif affiché de cet impôt dit comportemental est bien la santé des Calédoniens, dont au moins 10% sont atteints par un diabète de type 2, avec 2 adultes sur 3 en excès de poids.
Merci Isabelle Pelletier. 17h56, dans un instant, la suite de l'actualité.
RRB. Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicités, programmation, avis de décès, avis et communiqués, une seule adresse rrb@rrb.nc.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info soir, Gilles Ménage.
24 futurs policiers municipaux sont entrés en formation aujourd'hui. Cette 19e promotion va venir élargir les rangs des polices municipales de Nouméa, du Mont-d'Or et de Dimbéa. 12 semaines de formation intense les attendent au centre de Normandie. Tous sont animés par la volonté de faire régner l'ordre public et d'intervenir avec bienveillance, en proximité directe avec les administrés. Ils ont passé le concours l'année dernière et l'insurrection dite du 13 mai a renforcé encore davantage leur motivation. Écoutez.
Ça fait environ 3 ans, j'étais garde champêtre sur la commune du Mont-d'Or, à la police municipale déjà. Donc je me suis découvert, j'en ai fait ma vocation. J'ai décidé de passer ce concours-là et j'ai intégré la police municipale de Nouméa cette année. C'est pour faire respecter la loi. Et avec le cadre qu'il y a en ce moment, et ben, ça donne encore plus de conviction. Et ça nous conforte dans ce qu'on fait et on voit qu'on sert quand même à quelque chose malgré tout.
Faire respecter l'ordre en général, faire en sorte que la ville, les civils soient en sécurité. J'ai toujours été très intéressée par les métiers de force de l'ordre. Se sentir utile et protéger aussi, vouloir aider la population ou quand on sent que ça peut se dégrader très rapidement.
La première chose, c'est d'aider la population, en fait, que ce soit sur le point administratif ou judiciaire. C'est exceptionnel hein, ce qui s'est passé dernièrement. Hein. On a une autre volonté par rapport aux administrés qui subissent l'insurrection, hein, d'aider encore plus et pouvoir faire le nécessaire davantage. Quoi.
Les élèves de cette 19e promotion ont donc hâte, vous l'avez entendu, de servir la population sur le terrain. Pendant 12 semaines, ils vont donc apprendre toutes les techniques d'intervention avant de rejoindre leur commune d'affectation dans le Grand Nouméa. Écoutez le premier adjoint au maire de Nouméa, Jean-Pierre Delrieux.
Ils vont avoir, avec des formateurs qui sont expérimentés, une formation pour ensuite être efficace au niveau de notre police, puisque c'est une police de proximité. Et donc, il faut avoir tous les bons gestes et les bonnes relations avec les administrés. Un bon policier, c'est au service des populations, d'œuvrer au niveau de la sécurité et du bien-être des gens. Évidemment, c'est ce qu'on attend tous. Et puis vraiment d'être en proximité, de pouvoir agir très rapidement. Et pour différentes raisons d'ailleurs, parce que le policier municipal, il est vraiment amené à faire différentes tâches du quotidien pour les administrés.
Une 19e promotion qui sortira de l'école de la police le 6 décembre prochain. Une nouvelle mobilisation des citoyens mondoriens ce matin, 116 jours après le blocage de la RP1. L'association a réuni ses membres et sympathisants au Wharf du Vallon d'Or pour dénoncer la situation des élèves et des enseignants du sud de la commune. Florent Perrin, le président de l'association.
Depuis le 16 juillet, donc plus d'un mois et demi, après avoir vu le vice-rectorat, rien n'a évolué en fait. Donc on a toujours des élèves qui sont dans des files d'attente pendant 2 à 3 heures pour essayer d'aller au lycée du Mont-d'Or par exemple. Et puis on a tous les autres, des lycées d'ailleurs de Nouméa, nos professeurs qui vont à Caméré, enfin etc., qui eux vivent maintenant même à Nouméa. Donc le Mont-d'Or se vide, les familles sont explosées, c'est intenable, enfin c'est invivable. De toute façon on ne sait même plus quel qualificatif donner à notre situation. Il y a une grande résignation chez les Mont-Doriens. Mais bon, nous, on lâche rien, on va continuer à dire les choses, à dire que ça va pas, à dire qu'il faut débloquer la route. Je crois que voilà, on a que ça à faire de toute façon, et puis on espère qu'à un moment ou à un autre, on va enfin être entendu.
Florent Perrin, président de l'association des citoyens mondoriens, qui demande également des réponses de la part du vice-rectorat, lequel renvoie, s'agissant de questions de transport, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux services de l'État. 724 entreprises ont été dégradées, pillées ou incendiées depuis le début des émeutes, dont certaines sont entièrement détruites. Aujourd'hui, les carcasses des bâtiments s'accumulent dans le paysage calédonien et pour reconstruire, il faut d'abord songer à les démolir, Isabelle.
Oui, un travail pas si évident que ça. Il y a 2 semaines seulement, l'entreprise de démolition MC Recyclage a entamé son premier chantier sur une 60aine de devis reçus de diverses entreprises. C'est le seul qui, pour l'instant, a été validé. Il s'agit de la plateforme logistique de Nouméa-Pas-Cher à Normandie, entièrement incendiée par les émeutiers. Pour Nicolas Frick, responsable de la gestion des déchets industriels chez EMC, le retard pris par les démolitions s'explique, mais il n'est pas sans risque.
Pour l'instant, les clients souvent reviennent vers nous en disant qu'ils attendent toujours le retour des assureurs. Pour tous les chantiers, sont demandés des acomptes pour pouvoir bloquer et démarrer les chantiers. Aujourd'hui, si le propriétaire n'a pas eu l'aval de l'assurance ou au moins les premiers acomptes, on peut strictement rien démarrer. On espère effectivement que d'ici le mois d'octobre, il y ait des fonds qui soient débloqués pour les différents chantiers. On va arriver sur la période cyclonique dans pas très longtemps. Il est certain que si certains gros bâtiments ne sont pas démolis d'ici là et qu'on prend une dépression ou un cyclone pas très loin, ça risque d'être très dangereux. Ouais.
Des chantiers qui prennent donc du temps à démarrer dans l'attente de l'expertise des assureurs, mais pas seulement. Les débris des bâtiments brûlés ou saccagés doivent être minutieusement triés avant d'être enfouis ou exportés. On retrouve Nicolas Frick.
La province sud a émis un arrêté le mois dernier sur la gestion des chantiers de démolition liés aux exactions, notamment point très particulier sur la gestion des cendres provenant de ces incendies, puisque l'ISD de Gadji a fait une nouvelle plateforme pour réceptionner les cendres provenant de ces activités, mais essentiellement sur des activités non dangereuses. Donc sur le terrain, on se rend compte que c'était une activité où il y avait éventuellement du stockage de produits chimiques, de batteries, donc des prélèvements, des envois en métropole pour la caractérisation. Et sur cette base-là, c'est accepté et on peut envoyer à ce moment-là sur ce casier spécifique, ou ce n'est pas accepté. Et puis, dans ce cas-là, on est contraint à de l'export pour du traitement via les filières export, donc souvent en Nouvelle-Zélande, qui représentent des coûts bien plus importants que le traitement local.
Les propos recueillis par Charlotte Coulson et parmi les devis demandés à l'entreprise et toujours en attente de validation, le complexe du Cost Factory ou encore l'ensemble SCI Kenwin.
Et puis au premier jour de la reprise du trafic, les bus rails ont accueilli très peu de passagers ce matin. Avant les émeutes, le réseau attirait en moyenne 1100 usagers par jour, soit 350 000 personnes à peu près par an. 5 lignes ont été remises en service au départ de Nouméa en direction de Panier, Puébo, Koumac, Népouy et Vaux. Une reprise timide donc pour cette première journée, mais parmi les passagères, Monique et Madeleine se sont dites soulagées.
Soulagées, oui, parce que c'est dur sur le rail. Je reste sur Kouaoua et puis je fais souvent des allers-retours Kouaoua-Nouméa pour voir la famille et pour les enfants, pour l'école. Depuis qu'il n'y a pas rail, on ne bouge pas de Kouaoua. Je suis véhiculée, mais pas souvent. C'est, la plupart du temps, tu fais du pouce.
Je viens de Koné. On est venu pour un deuil déjà et puis là, je remonte et puis c'est pas tout le temps. C'est vrai que des fois, on a envie de descendre pour des papiers et tout. Mais quand je peux pas, s'il y a personne, ben voilà, après je suis obligée de reporter encore pour tout ce qui est rendez-vous, tout ça. Là en ce moment il y a des covoiturages, mais c'est pas évident. Je suis soulagée là parce que voilà, depuis que j'ai su que ça allait reprendre, là, ça m'a vraiment soulagée.
Le nombre de bus va être réajusté en fonction de la fréquentation qui sera enregistrée dans les prochains jours pour préserver le budget du syndicat. C'est ce qu'explique Ludovic Lombard, le directeur du SMTI.
Ça ferait forcément quelque chose de réduire le nombre de services parce qu'il a été dimensionné comme ça. On vient de recevoir une flotte qui était dimensionnée pour le réseau actuel. Mais s'il est plus finançable parce qu'on n'a plus de recettes commerciales, il va falloir prendre des décisions. Et les membres du conseil syndical vont se prononcer sur les décisions qui seront à prendre, avec des préconisations techniques bien évidemment. On dépend de la Nouvelle-Calédonie prioritairement. On a des taxes affectées par la Nouvelle-Calédonie pour financer justement ce réseau. Ce qui est important de savoir, c'est que les recettes commerciales, ce que les gens payent pour prendre le bus, ne représentent qu'un tiers du coût finalement du réseau. Une grande partie des recettes vient des taxes affectés qui sont payés finalement par tout le monde à travers les produits pétroliers. Donc quand on fait le plein, on paye une partie des tickets de bus, que ce soit pour le réseau Tanéo ou le réseau Rail. Et ensuite, on a la participation des membres, donc les deux provinces, Sud et Nord et la Nouvelle-Calédonie. Il y aura peut-être des économies à faire. Des économies, si les recettes commerciales ne permettent plus de couvrir un certain nombre de postes de dépenses, effectivement, il faudra prendre des décisions. D'arrêter le service public, je ne pense pas. Je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Mais il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport au niveau de service qui est aujourd'hui très important, qu'on espère pouvoir maintenir, mais s'il devient infinançable, devra être réajusté.
Les bus rails qui pourraient reprendre du service également sur la côte Est dès la semaine prochaine, si et bien sûr seulement si les routes se débloquent. Les boutiques Lagoon, elles, ont rouvert leurs portes 2 semaines après le piratage de grande ampleur qui a touché le fournisseur d'accès Internet. De très nombreux clients n'ont pas pu régler leurs factures ou trouver des solutions à leurs problèmes de connexion. Plus de 40 clients se sont rendus aujourd'hui à la boutique Lagoon Port Plaisance pour demander de l'aide.
Je suis passée il y a 2 semaines, c'était fermé, on a appelé, puis c'est ouvert, et puis voilà, je profite de venir payer mon Wi-Fi.
Ben, je viens payer Lagoon.
Je viens pour résilier mon abonnement, parce que ça fait presque un an qu'on le paye comme ça, mais on n'a pas Internet chez nous.
Ben, moi, je viens rendre mon routeur.
Ben, j'ai attendu, et aujourd'hui, je me suis fait engueuler par tous les copains et les professionnels de ne pas répondre, de ne pas refaire mes relevés de compteur, ainsi de suite, et l'eau et l'électricité. On reçoit tout sur la boîte mail et si on n'a pas de boîte mail, ben bonjour.
Voilà cet épisode de piratage qui a beaucoup impacté les abonnés de Lagoon, principalement les entreprises. Le personnel de la boutique Port Plaisance a dû traiter de très nombreuses demandes aujourd'hui.
C'est très dur surtout de gérer les clients qui sont un peu énervés parce que là ça va faire la 3e semaine là, que c'est toujours en stand-by. Là, aujourd'hui, j'en ai eu peut-être une 20aine de clients, rien que la matinée, et une 20aine l'après-midi. Donc, il y a eu pas mal de reparamétrages de modem, et on avait pas mal aussi qui venaient pour de la messagerie, mais ça n'a pas été résolu encore, le problème.
On reçoit beaucoup de demandes par mail, où les clients pro nous contactent directement sur notre portable. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de travail, enfin, pour ma part, par mail ou par téléphone, mais aujourd'hui, voilà, j'ai reçu qu'un seul client pro qui est venu pour résilier, et par rapport au problème de messagerie qu'on rencontre actuellement.
On leur précise bien que la connexion Internet, c'est la seule chose qu'ils vont nous régler en tant que facture, parce que tout ce qui est adresse mail, Lagoon, la VOIP, donc les appels pour l'international, ce sont des services gratuits. Donc on les aide comme on peut, en leur créant d'autres adresses mail sous un autre nom, comme Gmail ou Outlook.
Les problèmes de messagerie à Lagoon qui ne sont pas encore totalement résolus, donc à ce jour.
RRB 18h08.
Un appel urgent ce matin sur notre antenne dont vous avez un avis. Le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie, Gérard Joyot, a souhaité alerter la population sur un niveau de stock particulièrement bas.
Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin, urgent dès maintenant, de groupes sanguins, au moins, au plus. Les stocks sont bas. Alors pourquoi? On a découvert que depuis 3 semaines qu'on mène l'enquête, les gens du Mont d'Orsul, les gens de Brousse, quand ils descendent sur Nouméa, ils ont d'autres priorités que de venir donner leur sang. Et donc ça fait un certain nombre de donneurs en moins. Et moi, ce que je sollicite aujourd'hui, c'est de dire aux gens qui n'ont jamais donné, réfléchissez, venez donner votre sang. Avec une poche de sang, on peut sauver 3 vies. Et parfois, pour sauver une vie, il faut plus de 3 poches de sang. Donc, juste un rappel rapide, il faut avoir plus de 18 ans, faire plus de 50 kilos, être en bonne forme. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 055 100, c'est gratuit. Et pour aller donner son sang, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, on peut y aller directement.
Le centre du don du sang qui est situé au rez-de-chaussée de la tour Pacific Arcade à Nouméa, il est ouvert du lundi au jeudi de 7h15 à 14h et le vendredi de 7h15 à midi. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur le site www.dondusang.nc. Le soin de santé va lui enclencher demain matin à partir de 6h et jusqu'à midi un mouvement de grève à l'EHPAD de Tina. Le syndicat dénonce une pression de la part de la direction, une absence de dialogue et des licenciements effectués Selon le syndicat, sans le respect des procédures, l'USTKE pourrait rejoindre le mouvement. Et puis une info dans la région, l'aéroport de Sydney a annulé aujourd'hui des dizaines de vols à destination notamment de Melbourne et Canberra en raison de vents particulièrement violents qui soufflent sur la côte est de l'Australie et qui peuvent mettre en péril la sécurité des passagers. Qantas a déjà annulé 25 vols et Virgin plus de 10. D'autres vols doivent encore être annulés en cette fin d'après-midi. Dans un instant, le sport.
Depuis 50 ans, la BNC participe activement au développement économique de notre territoire. Tous les jours, nous vous accompagnons dans votre vie quotidienne. Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble vos projets d'avenir. Depuis 50 ans, nous sommes la Banque de Nouvelle-Calédonie. Et votre histoire, c'est notre histoire.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Gilles Ménage.
Oui, l'actualité sportive avec bien sûr notre page consacrée aux Jeux paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
La quatrième journée des Jeux paralympiques de Paris 2024, elle a démarré juste après 17h pour nous en Nouvelle-Calédonie ce soir et le programme est particulièrement chargé, Léo Fichou.
Et encore une fois, de nombreux Français sont engagés ce soir et la nuit qui arrive, une soirée pour nous et une journée à Paris qui s'annonce riche en médailles pour la délégation tricolore, en tout cas on l'espère. Dans quelques minutes déjà, Lucas Mazur et Faustine Noël vont tenter de décrocher le bronze en para-badminton mixte face à la paire thaïlandaise. Début de la rencontre aux alentours de 18h30. Lucas Mazur, qu'on retrouvera dans la nuit vers 3h, heure de Nouméa, pour la finale du tournoi simple dans la catégorie SL4. Autre Français en finale du badminton, c'est Charles Knox dans la catégorie SH6. Son match est prévu aux alentours de 6h demain matin. À 19h30 ce soir, Aurélie Aubert jouera elle aussi le titre, mais à la boccia, cette fois l'équivalent aux Jeux paralympiques de la pétanque. Elle est opposée à Yiting Géraldine Tan, la singapourienne.
Et puis en triathlon, Léo, les épreuves devaient avoir lieu ce week-end, mais elles ont dû être reportées aujourd'hui en raison de la qualité de l'eau de la Seine.
Les Bleus ambitionnent de décrocher plusieurs médailles parmi les 11 compétitions au programme ce soir en triathlon, notamment avec le porte-drapeau de la délégation française Alexis Anquincan, mais aussi avec Louis Noël, Mona Francis, Héloïse Courvoisier ou encore le quadruple champion du monde Jules Ripstein. On suivra aussi le tennis sur les courts de Roland-Garros avec des Français engagés en simple femme et simple homme tout au long de la soirée et de la nuit, tout comme du côté du tennis de table. On jouera les huitièmes de finale avec des Français une nouvelle fois engagés. Et puis des chances de médailles, il y en aura aussi au Stade de France avec la suite de l'athlétisme et à la Paris La Défense Arena avec de la natation.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
L'actualité sportive sur le territoire et le Baltrap est en péril. Le président de la Ligue calédonienne, Marion Roumagne, était notre invité dans le Mac des Sports ce midi.
Pour cette discipline, c'est la double peine. L'arrêt des compétitions d'abord, comme la majorité des ligues sur le territoire, mais également l'impossibilité de pratiquer pour les passionnés du fait de l'interdiction de transporter des armes. Son responsable, Marion Roumagne, craint pour l'avenir de la discipline.
On craint pour la discipline. C'est des petites ligues qui sont très actives et puis mais c'est pas, on fait partie des petites ligues en Nouvelle-Calédonie. Et si ça ne reprend pas rapidement et si on n'a pas les moyens de reprendre rapidement, le peu qui nous reste, on risque de le perdre. Et là, c'est la fermeture des clubs. Je joue pas le scénario catastrophe, mais il faut quand même faire attention de ne pas perdre ces disciplines sur le territoire.
Marion Roumagne est aussi le président de la commission des Jeux du Pacifique au CTOS. Et là aussi, le constat est sombre. Les mini-jeux à Palau, prévus du 29 juin au 9 juillet 2025, risquent d'être largement contraints pour les équipes de Nouvelle-Calédonie.
On a des réunions avec les ligues concernées, ceux qui vont partir sur les jeux, sur les mini-jeux déjà. Ce qu'on leur demande, nous, c'est que de faire comme si, c'est-à-dire préparez-vous et sans leur promettre mon émerveil derrière, parce qu'on sait très bien que financièrement, ça va être très difficile. On a fait trois prévisions différentes en emmenant une délégation déjà réduite, c'est-à-dire au mieux, ça sera 150 personnes. On va peut-être emmener que des médaillables ou on va emmener que peut-être que des médailles d'or, ou on va finir peut-être à 10 participants juste pour faire de la représentativité, parce que quand même, à Calédonie, on est les meilleurs actuellement, puisqu'on a gagné les derniers jeux, mais ça risque d'être très difficile d'emmener une équipe complète de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme budget? Pour l'instant, on a, dans le flou complet, on n'a aucune réponse, aucune prévision peut être faite, quoi.
Marion Roumagne, le président de la Ligue de Baltrap et président de la Commission des Jeux du Pacifique au CTOS, qui était dans nos studios ce midi dans le MAC des Sports. Émission, on le rappelle, à retrouver en podcast sur le site internet d'RRB.
Il est 18h15, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et on vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur la façade ouest, la nuit sera étoilée. Ailleurs, les passages nuageux se feront plus nombreux et quelques gouttes de pluie seront possibles sur le nord-ouest. Sur l'ouest, le vent moulira et deviendra généralement variable faible, mais restera localement accéléré en début dans l'axe de certaines vallées. Sur les autres régions, il passera de 10 à 15 nœuds en début de nuit et à 5 à 10 nœuds à la fin. De secteur nord-est sur le sud et d'est ailleurs. Le mercure sera compris entre 17 et 21 degrés, localement 14 à 16 degrés sur l'ouest et marée. Demain matin, aux loyautés, les plaques de nuages seront tenaces et alterneront avec quelques éclaircies. Ailleurs, les nuages de la nuit se dissiperont rapidement et un grand soleil s'imposera. Sur la pointe nord et Bep, le vent soufflera entre 10 et 15 nœuds d'est-sud-est. Il variera entre 5 et 10 nœuds d'est aux loyautés et de secteur nord sur la pointe sud et l'île des Pins. Ailleurs, il sera variable faible avec seulement quelques brises qui se lèveront en fin de matinée.
Merci Nicolas pour tous ces détails. C'est la fin de ce journal.